On va au Sénat où un rapport d'information sur le Fénois a été étudié ce matin. On écoute Oscar Temaru qui parle de Calédonie et de l'ONU. Et on s'intéresse à un tournoi de rugby à 7 pour terminer. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence par de la politique avec un rapport d'information sur la situation institutionnelle, administrative et justice en Polynésie française.
Il a été présenté ce mercredi en commission des lois au Sénat à Paris. 22 recommandations ont été faites par la délégation de la commission des lois qui était venue au Fénois en avril dernier. Alors elles concernent un champ plutôt large, des compétences de chacun à la clarification du droit en passant par l'ingérence des puissances étrangères. Sur la répartition des compétences entre l'État et le pays, il s'agit de limiter par des frontières incontestables et pertinentes en suivant une logique de bloc de compétences et rendre ainsi l'action publique plus simple et efficace. L'article 43 du statut qui leur permet d'exercer des compétences complémentaires a d'ailleurs été au cœur des discussions, c'est ce qu'explique la sénatrice Lana Tetuanui qui fait partie de cette commission des lois.
Clarifier les compétences de chacun. Il faut absolument que le pays prenne les lois du pays pour pouvoir partager certaines compétences que les communes réclament aujourd'hui sur des compétences qu'ils exercent déjà, qui ne leur appartiennent pas et que le pays parle aujourd'hui en transférer. Ce qui a créé déjà d'ailleurs la frustration des élus marquisiens, parce que quand on parle de développement économique des Martiniens, ben, ils sont bloqués par le statut de la Polynésie.
Voilà, et comme l'explique, comme l'espère la sénatrice, il ne reste plus qu'à concrétiser toutes ces recommandations.
C'est clair, c'est un peu le sens de l'intervention que j'ai fait au sein de la commission des lois ce matin. Il ne faut pas que les rapports soient rongés dans un placard dans les jours ou dans les années à venir. Je suis confiant au travail mené ici au Sénat. J'ai juste demandé à ce que ça soit traduit par des textes concrets.
Et c'est également l'intention du sénateur Tevaro Fritsch pour qui il appartiendra à chaque acteur public de retenir ou pas ses recommandations. Fin de citation. Ces 22 recommandations sont en tout cas une source d'inspiration pour faire des propositions de loi avec un objectif, améliorer le fonctionnement des institutions pour plus d'accessibilité et d'efficacité de l'action publique. À noter parmi les auteurs de ce rapport, François-Noël Buffet, devenu depuis le ministre des Outre-mer. Les détails sur notre site radio1.pf.
Par ailleurs, Tevaro Fritsch, Lana Tetuanui et la députée Nicole Sanquer ont également été reçu par le Premier ministre hier, Valdemar.
Nous voulions défendre les priorités polynésiennes alors que la loi de finances est à l'étude et que les dotations pour l'outre-mer sont en baisse. Voilà ce qu'a expliqué Lana Tetuanui qui a trouvé que Michel Barnier était un homme très à l'écoute. Fin de citation.
Michel Barnier, justement, qui va bientôt recevoir une lettre.
Oui, une lettre signée par Oscar Temaru et qui doit être remise au Premier ministre par l'intermédiaire de Moetei Brotherson. Alors que s'achève la session de discussion sur la décolonisation à l'ONU, ce n'est pas de Mawinui mais de Kanaki dont parle le président du Tavini dans cette missive. Il y revient longuement sur l'histoire de la colonisation et des violences en Nouvelle-Calédonie avant de demander la libération immédiate des militants kanaks arrêtés ces derniers mois au cours de la flambée de violences qu'a connue le Caillou et écrouée en métropole. Christian Théin et les autres, je les considère comme mes propres enfants. Voilà ce qu'écrit le chef de file indépendantiste pour qui il ne s'agit pas de prisonniers de droit commun mais de prisonniers politiques.
Accepter ce projet de loi, le dégel proposé par l'État, c'est la fin du peuple kanak. C'est une question de dignité également, de fierté. Et ils ont prouvé par les actions qu'ils ont menées, et ils ont quand même prévenu également. Tout le monde a été prévenu, tout le monde. Bon, les appels des casseurs, ils ne sont pas allés en France casser quoi que ce soit. C'est de France qu'on a envoyé des casseurs chez eux.
Oscar Temaru qui propose au passage sa médiation pour réinstaurer un dialogue apaisé entre l'État et les pro-Kanaki. Ce message est donc adressé à Michel Barnier qu'il a déjà rencontré quand ce dernier était à la tête du Quai d'Orsay. Aujourd'hui, Oscar Temaru salue le discours d'apaisement du Premier ministre sur la Calédonie, le retrait du projet de loi contesté sur le corps électoral et il dit même faire confiance au nouveau chef du gouvernement pour prendre les bonnes décisions dans ce dossier.
C'est quand même quelqu'un, il a 75 ans, et qui a de la maturité politique, qui a l'expérience et tout ça, et il a été plusieurs fois ministre de plusieurs gouvernements. On s'est rencontrés, une longue discussion, il ne voulait pas que j'aille à New York pour faire le travail de la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Non, et puis bon, ben, on voit, enfin, espérons que ça ira dans ce sens-là.
Et Michel Barnier qui rencontrera aussi dans les jours à venir Moëtte Broserson qui voyage en ce moment même depuis New York jusqu'à Paris. En marge de la réunion de l'ONU, le président a enchaîné les rencontres de dignitaires internationaux. Mais il s'agit désormais d'être fixé sur la ligne du nouveau gouvernement français concernant le processus de décolonisation en Polynésie. Le discours de l'ambassadeur français aux Nations Unies qui expliquait que ce processus ne serait tout simplement pas lancé et forcément resté au travers de la gorge du Tavigny.
Là, il y a quand même un décalage entre les propos tenus par Michel Barnier concernant la responsabilité de la France, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, sur la décolonisation et tout ça, et l'ambassadeur de France. J'espère, parce qu'on ne lâchera pas. Le droit est de notre côté. Et c'est mon rituel de dire tous les jours, utilisons le droit et rien que le droit. C'est ce qui embête, je crois, la France. On aurait préféré qu'on fasse autrement. Niet.
Niet, pas de changement de méthode pour les indépendantistes qui demandent l'ouverture des discussions bilatérales avec l'État vers l'autodétermination et un programme de travail sur la décolonisation, le tout sous contrôle de l'ONU. Il faut tout de même noter que 11 ans après la réinscription et après 11 résolutions des Nations Unies appelant à mener ces discussions, Paris n'a pas changé de position. Une question de temps, assure Oscar Temaru.
Cette triste nouvelle à présent avec cette baleine retrouvée morte au large de Fa.
Oui, ce juvénile nageait déjà avec difficulté entre Papeete et Fa et plusieurs personnes l'avaient signalé hier aux autorités. Il était donc surveillé surtout à cause des grands requins attirés par l'animal. La Direne avec un vétérinaire du réseau des gardiens de l'océan ont finalement constaté plusieurs blessures importantes. Le cétacé a fini par se noyer. Sa dépouille a été tractée au large par mesure de sécurité hier en fin de journée. À terre, une cérémonie culturelle a été organisée par l'association Rohutun Noa Noa et Faifeite pour lui rendre hommage. La gendarmerie a elle aussi été mobilisée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des blessures. Mais déjà, les connaisseurs qui ont pu observer l'animal parlaient d'une collision avec un gros navire qui allait vite. Certains pensent aux navettes Tahiti Moorea, souvent accusées d'entrer trop rapidement dans la passe de Papeete ou de Moorea. Aucun signalement de collision n'a pourtant été effectué hier et aucune responsabilité n'est pour l'instant confirmée. Les autorités appellent en tout cas à la vigilance. La dépouille de la baleine a été déplacée à 2000 nautiques de la côte et elle dérivait vers le sud-sud-ouest. Les pêcheurs, plaisanciers et autres usagers nautiques sont appelés à redoubler d'attention et éviter les mises à l'eau dans la zone de Fa et Punaouia dans les prochains jours à cause des risques de possibles concentrations de prédateurs à proximité. Le JRCC a aussi diffusé un avis urgent à la navigation. Le cétacé semi-immergé pourrait présenter des risques de collision.
En mer toujours, la manifestation des marins pêcheurs, c'est demain.
Oui, après une première mobilisation annulée mardi faute d'autorisation du port autonome, l'association des armateurs de pêche auturière et le syndicat des pêcheurs côtiers défileront dans la passe et dans le port pour une partie d'entre eux. Les organisateurs espèrent toucher 20 thoniers et une soixantaine de potimarara pour faire entendre leur mécontentement sur le nouveau statut de marin pêcheur. On vous en parle depuis la semaine dernière. Une rencontre avec le ministère des Ressources Marines aura ensuite lieu en fin d'après-midi. En cas d'échec des négociations, le mouvement pourrait se durcir.
Et à noter qu'il pourrait pleuvoir.
Mais oui, puisque depuis ce matin, les îles du vent et les îles sous le vent sont en alerte orange pour forte pluie. Météo France annonce des épisodes pluvieux intense pour les deux prochains jours à Tahiti, Moorea et également au Raromatei. Ces fortes pluies augmentent les risques d'inondation, surtout dans les zones de relief et les vallées où les rivières pourraient rapidement déborder. Il est donc conseillé aux habitants de ces zones de rester vigilants et de suivre les consignes des autorités. A noter que certaines communes ont déjà pris des dispositions, c'est notamment le cas à Papara où les écoles et le collège seront fermés demain.
Et puis du sport. Pour finir, le Papeete International Rugby 7 est de retour.
Deux ans après la dernière édition qui avait rassemblé quatre équipes étrangères et les meilleurs clubs du Fenua sur la pelouse de Fatawa, le club de Papeete a vu encore plus grand pour ce cinquième tournoi. Au total, sept équipes étrangères participeront aux deux journées de matchs prévues samedi 11 et dimanche 12 octobre sur le stade Pater. Des équipes plus nombreuses sur un événement qui s'ouvre cette fois davantage aux femmes et à la jeunesse. On y retrouvera des équipes venant du Pacifique, bien sûr, mais aussi pour la première fois de l'Hexagone. Sur la starting list, on note la participation chez les seniors de quatre formations venues de l'étranger avec les Aotoa 7 de Nouvelle-Zélande, les Tupapa Panthers, sans oublier les Eagles qui avaient gagné la dernière édition et qui sont là donc pour défendre leur titre. L'équipe masculine des 7 Fantastics, vice-championne de France, sera là elle aussi, comme sa section féminine qui jouera ce tournoi contre les Néo-Zélandaises de Pacific Nomads et la sélection féminine locale. Du beau monde donc et des matchs de bon niveau en vue selon Herenui Peretti, le président du club de rugby de Papeete.
Le niveau est assez relevé. Hein. Donc, bon, en plus, c'est pas plus mal aussi pour le niveau ici. Comme ça, ça me permet de voir le niveau à l'étranger et ça me permet d'avoir de l'expérience et d'évoluer. Après, avec la fédération, Le but, c'était de développer aussi les jeunes et les féminines. Donc, le fait d'avoir un tournoi à 17 aussi, ça nous permet de faire une bonne promotion et surtout de récompenser un peu le travail des écoles de rugby.
Il s'agit aussi d'une grande fête populaire où se mêlent sport et culture. Depuis le début de la semaine, les équipes étrangères sont invitées à découvrir nos îles et nos traditions. Après un tour sur l'île sur lundi, puis une initiation au sport traditionnel mardi, les joueurs de rugby effectuent un tour de l'île ce mercredi. Au programme également, des rencontres avec les scolaires avant le coup d'envoi officiel de l'événement samedi. En plus des beaux matchs que pourront apprécier les spectateurs attendus nombreux ce week-end, les organisateurs mettent aussi en avant l'installation d'un village du tournoi sur place.
Un petit village aussi sur place, un peu pour les enfants, la buvette, l'institut du conseil, enfin, la sensibilisation. On travaille aussi avec l'association Temana ou Temuana, qui est partenaire de l'événement, hein, pour la préservation des animaux marins, donc ça c'est autre chose aussi. Fenouama, le côté environnemental. On essaie d'englober pas mal de choses pour ce tournoi-là, pas juste un tournoi de sport, mais et plein de choses.
Voilà, pour découvrir tout ça, rendez-vous donc samedi et dimanche, ça se passe du côté du Stade Pater. C'est la fin de cette édition de la mi-journée, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Le prochain point avec l'actualité locale, c'est bien sûr le flash de 16h.
Merci beaucoup Valdemar, on passe à la météo sur Radio 1, restez avec nous.